Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Audrey Pinchot qui est en vacances. Mon nom, c'est Marceau. Très content de vous accompagner avec Pascal CV qui est là avec moi jusqu'à 14h. Salut, Pascal.
Salut.
Passez un bon matin.
Oui, bon. Oui. J'ai été Jean Chrétien pendant 2 heures, mais ça s'est résorbé.
Oui, c'est ça. Ouais. T'as été chez le dentiste. Oui,
ils m'ont gelé une partie de la gencive qui finalement a monté dans l'œil et dans le nez. C'était glorieux, vraiment. Vraiment, vraiment. C'était magnifique.
Ils t'ont gelé la gencive du haut, là?
Oui, c'est parce que j'ai en tout cas, j'avais un truc là, qui est en dessous de la gencive à aller polir. Là. Ouais. Ça s'appelle un composite. Là. Il y a une partie de ma dent qui n'était pas égale après que j'ai eu des broches à l'autre. Puis moi, je suis folle, ces dents. Écoute, ils maïssent quand j'arrive là. Ils m'aiment, mais ils maïssent parce qu'ils savent que je vais scruter de A à Z. Fait que là, il y avait un petit quelque chose qui me gossait, mais il fallait qu'ils me gèlent. J'ai mal dormi à cause de ça.
T'es-tu guéri?
Ben, ça se peut que ça accroche un peu, mais oui, je suis guérie.
C'est drôle, hein? Les gens qui sont en train de travailler dans le merveilleux monde de la santé, ils n'ont pas l'impression. T'sais, ils font tellement tout le temps la même job que je suis pas trop sûr des fois s'ils se rendent compte qu'ils travaillent encore avec des humains.
Ben, c'est une excellente question et je me la suis posée avant d'arriver. Fait que la première chose que j'ai dit, hey, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu tétanisée d'être ici, je veux juste vous dire, moindrement à l'aise. Ouais. Là,
on parlait la semaine passée de mon rendez-vous chez le dentiste avec la dame qui était la spécialiste du crochet. Là,
oui.
Qui allait me chercher ça dans le dessous des gencives.
Oui.
Puis elle, d'après moi, elle pourrait travailler dans un abattoir, puis ça ferait pas vraiment grande différence.
Mais pauvre abattoir aussi, là, tu sais, pauvre animal.
Ouais, ouais. Fait
que j'irais, mettons, avec des robots, tu sais.
Oui, mais ça saignait épouvantable, puis pour elle, c'était un lundi.
Bah oui, c'est plutôt t'as la tête par en arrière, puis ça cramouille.
Ouais.
Les pires, honnêtement, puis je jasais avec quelqu'un qui est allé se faire. Je sais que tu comprendras pas, là, mais que tu allais se faire un test utérin, OK?
Pourquoi je comprendrais pas?
Mais t'as pas d'utérus, le père.
T'es qui, toi, en 2025, pour présumer que j'ai pas d'utérus?
Bon, alors, le pire, il paraît. Tu sais, je veux dire, t'es déjà rendu comme toi, mettons, on te martèle le trouffe, là.
Oui.
T'es vraiment vulnérable.
Test de prostate.
Non, mais attends, le martèle, là. T'sais, quelqu'un qui en a 75 à faire cette journée-là.
J'ai pas ce genre de soirée.
Puis, on parle toujours de médecine, OK? Ça, là, quand t'es vulnérable, puis c'est dans des parties intimes ou c'est ça fait mal, ou faut vraiment qu'ils réalisent qu'ils sont en train de traiter un humain. Puis, tu sais, souvent, il y a quelque chose en arrière de ça. Si la femme est rendue à se faire un test utérin, là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en fécondité ou autre.
Ouais.
C'est déjà difficile. Mais il y en a des exceptionnels, on s'entend. Mais juste au tri, pareil, tu sais, une secrétaire en tabac de sa job, là, qui devrait juste travailler avec les machines en arrière, pas nécessairement avec le public. Quelqu'un, justement, qui ça fait depuis 2022 qu'il attend quelque chose pour la fécondité, puis les fausses couches, puis tu sais, difficile, là, difficile mentalement, difficile pour le couple. Fait qu'elle rappelle l'infirmière la semaine passée, l'infirmière a dit « Ben oui, je vous ai dans mon dossier. » « Oui, mais c'est juste que c'est la deuxième fois que ma médecin de famille fait une recommandation, tu sais, pour que je passe. » « Oui! » Mais il y en a d'autres. Elle dit oui, mais c'est parce que je suis rendue à 36, c'est sûr, c'est un peu inquiétant. T'sais. J'essaie depuis plusieurs années maintenant, là, le temps avance. Puis elle dit ben oui, mais il y en a qui ont 42, puis attendent.
Ouais, c'est
ça. Aussi, ils trouvent ça dur.
Puis, tu sais, je regardais la dame au tri en fin de semaine, puis à chaque 5 minutes, il y a des gens qui se levaient pour demander c'est quand ça allait être leur tour, vers quelle heure ils allaient passer. Tu sais, à un moment donné,
Il y a cette dame-là, mettons, avec peut-être des gens quérulents à l'urgence. Puis t'as l'autre dame qui. C'est humain, je veux dire, c'est humain, t'es inquiet. Mais là, être la madame de vos papiers dans Monster Inc., là, en santé, c'est pas tant la place, là.
Ouais, tu sais, des fois, tu te fais demander à job, « Salut, ça va? T'es sûr, ça va? » Puis là, tu te le fais demander par 2-3 personnes, « T'es sûr, ça va? » À un moment donné, tu deviens comme en sacrament, là.
Ouais, oui.
Fait qu'imagine-toi, eux autres, aux 5 minutes, c'est des gens qui se plaignent parce que c'est long, alors que tout le monde sait que, bon, tu t'appelles patient, hein, quand t'es dans une salle d'attente, donc tu devrais l'être. Puis le système de santé est tel qu'il est. On attend. Mais oui, les employés, à un moment donné, ils font juste la déconnexion dans leur tête en se disant, t'as peu.
Mais moi, c'est une vocation.
Aux 5 minutes, je me fais harceler, puis peut-être que je serai encore pire que ces gens-là. C'est-à-dire, madame, vous savez quoi? Je ne sais pas quand est-ce que vous allez passer, mais vous allez certainement passer. Avez-vous quelque chose de prévu d'ici décembre 2025?
Ouais, c'est
non?
Plus ça.
Bon, voyez-vous. À un moment donné, tu
je suis pas sûr. Sais-tu pourquoi j'ai plus confiance en toi que toi, t'as confiance en toi en ce moment dans cette situation-là? Le métier qu'on fait, Yannick.
C'est vrai que je travaille avec toi. Hein?
Ah.
Ça prend de la patience.
J'ai tellement d'être fine avec toi et tu me renvoies le pot cassé en pleine face. C'est pire que la chirurgie dans ma tête. Oui. Mais tout ça pour dire que en radio, là, Nous autres, on en passe des passes difficiles, là. Des fois bien difficiles. Mais quand on arrive devant un micro, on fait notre job. Puis ça prend une force mentale, je pense, qui est extraordinaire. Il y a des moments où que tout ce qu'on va faire dans une sphère de notre vie où ça va pas, c'est se lever le matin, pas s'alimenter, prendre un café, clencher le micro, être le mieux possible, impeccable, le plus possible au micro pour pas le faire ressentir aux auditeurs, sortir, se remettre en boule dans notre lit jusqu'au lendemain matin. C'est arrivé à n'importe qui derrière un micro. Mais c'est la même chose pour moi en santé.
Mais c'est pas si pire que ça. C'est comme ici, c'est comme travailler dans un asile psychiatrique.
Oui, probablement qu'on est tous un petit peu...
Il y a Dr. Steven, Dr.
Non,
Véro.
Non, je pense que c'est lui qui nous fuck, là, pour utiliser un mot en anglais. Là. Je pense que lui, c'est lui, dance for my puppet.
Bref, on vous salue les gens de la santé, mais quand vous nous dites ça va piquer un peu, tu sais, quand c'est le temps de faire la pieuvre, ça va juste piquer un peu.
J'avais une larme qui coulait, là. J'aime pas bien ça.
Ouais, en fin de semaine, dimanche, il m'a fait une infiltration, là, cortisone.
Oui. Ah, oh, mais ça, c'est le fun.
Il dit ça va piquer un peu, mais moi, j'ai rien senti, là. Il a pas piqué à la bonne place. Mais il dit ça va piquer un peu, puis j'ai l'impression qu'il est allé cogner sous l'os, tu sais, genre de.
Ouais.
Ça va piquer un peu.
Ça va cogner beaucoup. Mais une fois que la cortisone fait effet, là, à vous, là, c'est comme une libération totale.
Ça n'a pas fait effet. Moi, ça fait depuis dimanche que je dors pas. Je sais que là, tu vois, hier soir, j'étais à 14 sur 10 comme douleur dans l'épaule. Puis aujourd'hui, j'étais à 9 sur 10. Fait que ça s'est amélioré un peu.
9 sur 10, c'est beaucoup. 9 sur 10, Yannick, tu pleures, t'es fin avec moi, tu comprends?
Non, je me sens de même.
Il y a beaucoup de choses différentes. Ouais. Là.
T'as tout le temps plus mal le soir, je sais pas pourquoi. Peut-être que...
Ta journée dans le corps,
la fatigue, t'sais, ça fait longtemps que tu luttes contre le mal. Mais hier, j'étais certainement à 14 sur 10, puis j'ai aucune position pour... Je me fais rentrer un peu dans ma vie. Aucune position pour bien dormir.
T'as-tu essayé le Viagra pour te soulager?
Non, j'ai pas vraiment besoin de ça.
Ah!
Mais si
t'as-tu un oreiller? Ça, c'est nouveau, là. Je sais pas, peut-être nouveau depuis 10 ans, je sais pas.
Ouais.
Mais qui épose vraiment la tête, OK? T'as vraiment un trou au centre. Puis ça va aller juste chercher toutes tes lombaires. Ça va tout imprégner ton cou. Puis ça te permet de pas de mettre de pression sur tes épaules. As-tu déjà vu ça?
J'ai pas ça. J'ai toujours un oreiller bien normal. C'est juste que j'ai pas de position, que je me couche d'un bord ou de l'autre. C'est comme si j'avais le bras qui... dès qu'il y avait une mini tension, là, c'est comme si c'était du papier sablé qui frottait directement sur l'os. Fait qu'à chaque milliseconde, je me réveille. Fait que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai joué au Xbox de...
Mais là, sa tête est pas aidée non plus.
Non, mais je me suis couché à 9h hier parce que j'étais brûlé. Je me suis relevé à 10h. Puis je m'étais pas endormi. Je me suis relevé, j'écoutais la télé. Enfin, ça, je me suis recouché, je me suis pas endormi. Fait que de minuit jusqu'à genre 4-5 heures du matin, j'ai joué Xbox. De 5 heures jusqu'à 6 heures et quart, j'ai essayé de dormir, j'ai pas dormi.
Pas d'anti-inflammatoire, ils t'ont pas donné.
Ouais,
de...
j'ai ça. J'ai ça, mais ça fait absolument rien. Peut-être que je devrais en prendre deux. Là. C'est des naproxens, ça se peut-tu?
Je peux pas. Je peux pas faire ça. Je pourrais avoir une plainte. Là. Je peux pas te donner de conseils en onde par rapport à ton dosage. Là.
Vas-y, va.
Moi, je t'ai dit du Viagra.
Ça change le mal de place?
Il paraît que ça amène le sang ailleurs.
Ouais. T'aurais peut-être un petit malaise à travailler avec moi.
Ouais, je préférais que tu calmes malade. Ça te dérange pas.
Carl qui dit, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit bonjour les amis. Quelqu'un d'autre qui dit, je préfère les anti-inflammatoires pour ma part, oraux, là, que les infiltrations. Les infiltrations, ça n'a jamais marché pour moi. Quelqu'un d'autre qui dit qu'il travaille avec, qu'il n'y a aucune compassion puis aucune empathie pour les travailleurs de la santé, certains, là. Il dit, certains employés, le préciser, beaucoup sont des fâchés syndiqués qui devraient avoir... peut-être pas ce poste-là. Tiens, je vais traduire de façon moins vulgaire.
T'as besoin avec ça, parce que quand tu choisis ce genre de métier-là, c'est une vocation. Hein?
Mais c'est pas tout le monde.
Infirmière, infirmier, docteur. T'sais, le docteur que j'ai rencontré dimanche à l'hôpital Chauveau, je pense que c'est Vallée de mémoire, un docteur vraiment cool. Mm. Vraiment, vraiment cool. Puis il te donnait l'impression que tu étais unique, puis qu'il n'y avait que toi. Puis que toi, tu étais important, puis ton cas, puis il t'écoutait, puis il a passé quoi, à peu près une quinzaine de minutes avec moi. J'ai vraiment eu
un super
bon service. Mais on est tous des êtres humains. Puis pensez à la dame au tri qui se fait constamment chier dessus parce que le système de santé ne va pas comme les payeurs de taxes voudraient que le système de santé puisse aller. Elle est là, elle fait son travail. Puis il y a une rotation aussi là, pour ce qui est des gens qui sont au tri parce qu'à un moment donné, ils ne sont plus capables d'endurer les gens qui viennent les voir. Ça prend des gens particuliers pour faire ce genre de travail-là. Puis moi, je les salue. Mais parfois, ils ont une petite tendance à oublier qu'on est des êtres humains aussi.
Ça va dans les deux sens. Tu l'exprimes bien. T'sais, on a notre part des choses à faire en n'étant pas centré sur notre nombril en tant que patient.
Ouais.
Puis eux aussi ont leur part des choses à faire, soit être dans un métier qui convient, puis savoir justement que c'est des gens en souffrance devant eux.
Oui, exact. Hey, je veux te parler de quelque chose. By the way, ce matin, on va parler avec Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. Pascal va apprendre à se découvrir en 8 questions.
Pardon?
Paul va apprendre à se découvrir en 8 questions.
Toi, tu l'as déjà découvert.
À me découvrir en 8 questions. Ça va être vraiment nice. Paul, c'est une spécialiste du comportement humain. C'est une éducatrice spécialisée. Les tests qu'on va faire ensemble, ça va servir à peu près à tout le monde. Mais juste avant, Pascal, je voulais te parler de ça. Est-ce que tu as déterminé en toi le moment où tu vas te retirer du marché du travail?
Non. Hey, non. C'est trop loin.
Qu'est-ce que ça va te prendre pour que tu te retires du marché du travail? Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? As-tu des projets? Je vais te faire entendre quelque chose. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vois dans les médias depuis plus d'une trentaine d'années, qui est chef d'antenne à TVA, qui est une femme formidable. J'ai jamais eu l'occasion de lui jaser, mais bon, la mère de mes enfants a régulièrement jasé avec cette dame-là puisqu'elle était appelée à travailler une fois de temps en temps avec elle. Sophie Thibault, c'est une grande dame de la télé québécoise. Puis hier soir, voici l'annonce qu'elle a faite.
Permettez-moi de prendre un petit moment en terminant pour vous informer d'une décision importante que j'ai prise dans les derniers mois. Après 37 ans à TVA, dont 23 ans à la barre des grands bulletins, 22h et 17h, j'ai décidé de quitter l'antenne le 19 juin prochain. C'est une étape qui donne un peu de vertige, je vous l'avoue, parce que c'est un boulot que j'adore et ce contact quotidien avec vous, évidemment, va me manquer. Après tout, vous m'avez porté, vous avez ni plus ni moins dessiner les contours de ma carrière et ma gratitude à votre endroit est immense. Et en plus, je suis entourée d'une équipe exceptionnelle, c'est le mot, qui est devenue pratiquement une deuxième famille. Mais c'est une décision mûrement réfléchie. J'ai la chance d'être en forme. Je vais en profiter pour les années qui viennent en communiquant peut-être autrement. Comme vous le savez, peut-être une autre passion m'appelle, la photographie. Je vais donc changer d'angle, caméra à la main, voir du pays, élargir mes horizons, chercher la plus belle lumière, sans le tic-tac du temps dans mon oreille. Bref, je le vois un peu comme fermer une grande porte pour ouvrir une fenêtre sur de nouveaux horizons où je peux me permettre de ralentir un peu le rythme. En d'autres termes, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir bien senti. C'est un métier exaltant, être journaliste, être chef d'antenne, c'est une énorme responsabilité aussi et un honneur d'être là depuis tant d'années à vous offrir le bilan de l'actualité. Bien que les habitudes d'écoute et le contexte actuel des médias aient énormément changé, TVA Nouvelles demeure numéro un et je suis, je vous l'avoue, terriblement fière d'avoir contribué à ce succès-là avec tous mes estimés collègues. Alors, j'aurai l'occasion en juin de faire le bilan de ces formidables années en information et de prendre le temps d'offrir tous mes remerciements parce qu'ils sont nombreux. Mais d'ici là, on le voit chaque jour, les sujets ne manqueront pas et je vais donner le meilleur de moi-même dans ces derniers mois à venir à l'antenne.
Donc, Sophie Thibault quitte TVA dans les prochains mois. Pour ceux qui ne sont pas au courant, elle a eu le cancer dans les dernières années. Je dis de mémoire, c'est le cancer de la peau. Là. Je me permets de le dire parce qu'elle l'avait mentionné. Mais elle est revenue à la télé. Et là, maintenant, elle annonce sa retraite ou sa pré-retraite. Puis je trouve que c'est un beau moment pour elle, être encore jeune, être entourée de gens qui sont très dynamiques aussi autour d'elle. Sa conjointe est extrêmement dynamique aussi. Puis, d'après moi, elle ne doit pas manquer de rien au niveau de l'argent et tout ça. Fait qu'elle se dit, tiens, j'ai eu le cancer, j'ai eu une leçon de vie. Là, c'est le temps de penser à moi, puis c'est exactement ce qu'elle va faire. Je trouve que c'est un bon moment pour partir, pas pour elle uniquement, mais quand ça va bien ta vie, puis qu'il te reste encore bien du temps devant toi, puis que
t'es confortable financièrement,
why not coconut, tu sais, pour, comme elle dit, aller découvrir de nouveaux horizons.
Parce que c'est pas juste ça, la vie, c'est pas juste le travail. Tu sais, t'es chanceux quand t'as un job où t'es passionné, puis qu'à chaque jour, tu te lèves le matin, puis tu peux exercer ce job-là de passion. Je comprends qu'on a tous à voir dans nos choix de vie, mais tu sais, elle était passionnée. C'est dur aussi de pas s'embourber de ça, de rentrer dans le collimateur, puis de faire toute sa carrière, puis à un moment donné, se dire, hey, j'ai rien d'autre. Nombreuses sont les personnes dans les médias qui, à un moment donné, se sont rendues compte qu'il n'y avait rien d'autre que le professionnel, même si on troupait, même si c'est passionnant. Puis, tu sais, on peut appliquer ça à bien d'autres jobs, sauf que c'est sûr qu'à la fin, je pense qu'il te manque quelque chose. Tu peux dire ce que tu veux. Je suis la première qui n'est pas convaincue qu'une personne passionnée va toute sa vie se dire qu'il n'a pas passé à côté de quelque chose. Puis je ne parle pas d'enfant nécessairement, mais de se découvrir dans d'autres passions, se découvrir dans d'autres horizons, se découvrir dans d'autres secteurs d'activité ou tout simplement au personnel avec sa gang, sa famille, ses amis. Il y a toujours quelque chose qui revient. Puis c'est pour ça qu'on parle de façon, peut-être que des gens trouvent quétaine, de l'équilibre, mais force est d'admettre que plus tôt tu le comprends, plus tôt tu l'acquiers, plus tôt tu le mets en exercice puis tu es heureux.
Ben, c'est le nerf de la guerre. T'sais. Puis moi, je l'entends puis je trouve ça franchement intéressant. Le faire un choix de vie, être chef d'antenne, c'est très demandant. C'est du matin jusqu'au soir. Puis elle a travaillé jusqu'à 22 heures. Ben, c'est son bulletin de 22 heures. Donc, elle arrivait chez elle vers les alentours de minuit. Là, elle est rendue là, elle veut voir d'autres choses. Puis elle peut se le permettre de le faire. Planifier sa pré-retraite ou planifier sa retraite, là, il n'y a rien de mieux que ça. J'ai énormément de chums qui ont fait la police puis qui sortent de là dans la cinquantaine, jeune cinquantaine, qui se disent « Hey, tu sais quoi, je pensais que j'allais me la couler douce, là, mais je suis un peu écœuré parce que tous mes chums autour de moi, c'est pas juste des policiers, ils travaillent tout le temps, puis je suis tout seul à la maison. » Donc, ils recommencent à travailler. Des fois, ils se partent des petites compagnies de rénovation, ils se partent des petites business on the side. Même affaire pour les militaires. Les militaires, c'est encore pire, là, tu sais, après 20 ans de service. Fait que tu peux 20-25 ans de service, tu peux sortir de là à 45 ans, mettons. Qu'est-ce que tu fais à 45 ans?
Le temps est long si jamais tu n'as pas d'autres passions.
C'est ça.
Puis tu sais, les cultiver, ça prend du temps aussi, là. Se trouver, vaut mieux se trouver pendant qu'on travaille dans quelque chose que se trouver pendant un air d'aller. Tu sais, moi, Sophie Thibault, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est j'ose croire qu'elle a d'autres champs d'intérêt parce que un peu comme des athlètes, un peu comme... Ça, c'est une carrière, là. C'est pas un métier, c'est une carrière, là. Ça veut dire que tu te définis par le fait d'être chef d'antenne, par les médias, par l'actualité. Tous les jours, elle est branchée sur ce qui se passe. Elle se forge une opinion. Elle la nomme pas en nom nécessairement, c'est pas ça, mais elle est bercée par tout ce qui est actualité. Ça va prendre des années se redéfinir si ça n'avait pas été commencé pendant son cheminement professionnel. Puis comme nos finances, là, on dit qu'il faut se diversifier, il faut diversifier nos portefeuilles. Patrimon va sûrement encore nous répéter tantôt dans l'émission, mais
oui,
se diversifier personnellement.
Tony Robbins a écrit dans un de ses livres, « Trouver le moyen de faire de l'argent en dormant ». Je trouvais ça tellement ridicule quand j'ai lu ça la première fois.
Tu sais,
trouver une façon de faire de l'argent en dormant. Voyons donc, c'est quoi? Puis là, il l'explique très bien. C'est qu'à un moment donné, tu diversifies tes sources de revenus. On peut s'inspirer de la bourse. Tu sais, moi, j'étais à la bourse, là, je m'amuse à la bourse. Je fais de l'argent un peu à la bourse, mais je m'amuse en faisant de la bourse. Ben, je travaille ici, mais la bourse travaille pour moi aussi. Fait que c'est un peu ça que Tony Robbins mentionnait.
T'as d'autres intérêts aussi, tu travailles ailleurs.
Puis c'est grâce à ce livre-là que moi, j'ai réussi à me diversifier de cette façon-là. Mais la pré-retraite, moi, je pense pas encore. Je suis encore très jeune, quoi que tu puisses en penser.
Ouais, c'est
ça. Mais à un moment donné, ça va arriver. Oui. Tu sais, la cloche de « Hey, buddy, qu'est-ce que tu vas faire après? »
Juste s'enlever un stress. Tu sais, t'es arrivé des choses, puis des changements de direction, que ce soit notre choix ou pas, là, dans les dernières années. Puis c'est là où je pensais qu'il y avait un canal de vie, moi, mais j'ai commencé à ouvrir mes horizons. Puis officiellement, dans d'autres passions maintenant, j'ai une rémunération, mais je trippe à le faire. Je le fais à temps partiel. Je sais que si je me revire de bord, j'ai mes études en psycho. D'enlever un stress. Je lis un livre en ce moment, là, je l'aime tellement, là, Yannick, là, c'est Double ta valeur.
Double ta valeur.
Double ta valeur, OK? C'est tellement intéressant, juste sur ta vision des choses, là. Puis la vision patronale, comment est-ce que les patrons pensent que travailler 8 heures par jour, c'est le Klondike d'avoir un employé qui est comme ça? Comment est-ce que être dans le jus, c'est bien vu, mais au final, ils posent plein de questions au niveau personnel puis au niveau de l'orientation entrepreneuriale, là. C'est fascinant, ce livre-là.
Double ta
valeur.
Ça veut dire que tu me quittes quand, ça?
Ben c'est déjà fait, en fait. Là,
oui, c'est déjà.
Ça vient à terme. C'est juste que si t'es smart, je recule à chaque fois.
Bon, on te remercie de ton bénévolat. Un jour, tu seras canonisé. Hey, j'ai pogné une étude assez pertinente sur l'eau gazéifiée. Toi, es-tu une consommatrice d'eau gazéifiée?
Non, parce qu'on m'avait toujours dit que c'était pas bon pour l'émail.
Encore tes dents? T'as comme une fixation?
C'est parce que je t'en parle ouvertement. Je veux dire, tu peux me le nommer, je te l'ai dit.
Mais c'est-tu vrai que c'est pas bon pour l'émail?
Et les dents, c'est...
Ouais.
Ben, il paraîtrait que oui, là.
OK. Mais quand tu dis « il paraîtrait », c'est-tu un dentiste qui t'a dit ça?
Oui.
OK. Bon, on va le croire. Parce que l'eau gazéifiée, pour moi, ça m'a sauvé ça m'a sauvé un peu de santé, je pense, parce que j'étais un buveur de Pepsi.
OK, oui.
Je tripais sur le Pepsi. Moi, l'été, quand il fait chaud, puis quelqu'un m'offre un Pepsi froid, là, c'est comme si tu m'offrais, je suis pas un grand buveur de vin, je suis un buveur de vin, mais je prends pas des grands crus, là. C'est comme si tu m'offrais une bouteille à 5 000 $.
Je comprends. Un Coke avec la glace hangover, là, il y a rien de plus satisfaisant.
Il y a quelque chose là-dedans. Oh! Puis moi, j'étais un consommateur de liqueur. Quand j'avais 20 ans, là, je travaillais dans les restos en plus.
Puis pas juste ça.
C'était
là,
un peu dangereux. Là,
ta jeunesse, je veux dire, moi, je l'ai connu la fin de ça. Tu avais un livreur de liqueur, des bouteilles en vitre. Là. C'était culturel, là, la liqueur.
Quand je prenais un rhum, il y a tout le temps quelqu'un qui arrivait avec du coke.
Oui, mais là, peut-être pas quand t'avais 5 ans.
C'était fatigant. C'était fatigant. Mais à un moment donné, l'eau gazéifiée a commencé à se diversifier. Puis on a pu en acheter. Puis c'est pas si cher que ça, de l'eau gazéifiée. Là. Puis moi, j'ai cessé complètement de boire de la liqueur. Ça doit faire 15-20 ans que j'en bois plus.
Tu prends, mettons, du Perrier aromatisé?
Oui, ça peut être du Perrier aromatisé.
Ça te satisfait.
Sinon, la petite bouteille bleue à l'épicerie, là, ça coûte une pièce à 25. Là, t'en as. Ben, je pense que c'est Perrier citron, ces affaires-là.
Oui, oui, t'en as. T'as Bobli, t'as Perrier citron, t'as Montclair, t'as Montpellier.
Puis j'aimais ça parce que, bon, t'avais le fameux pétillant, puis tu bois de l'eau, donc l'eau, c'est pas nécessairement néfaste pour la santé.
Comme dirait ma fiole, toi, t'aimes l'eau qui pique.
L'eau qui pique, effectivement. Puis l'étude mentionne que l'eau pétillante peut aider à la perte de poids.
OK.
Ben, entre autres, parce que tu te sépares de la liqueur, là.
Oui. J'étais un grand fan de liqueur.
Je sais pas avec qui je parlais hier, mais il m'a donné une statistique que j'avais pas entendue. Aux États-Unis, on est rendu avec les gens gros, là, c'est 70 %. Avant, c'était 50 %. Ouais. Aux États-Unis, là, c'est rendu 70 %. Puis au Canada, on serait à peu près à 50 %. Puis là, il faut que tu détermines qu'est-ce que c'est que gros puis qu'est-ce que pas gros. Mais mettons, poids santé.
Ouais.
Si tu as ta poids santé, tu es correct. Mais l'autre tranche de la population sont considérés comme gros.
Mais un de mes amis, là, quand il était jeune, c'était un petit pain de fesse d'amour. Là. C'était vraiment un petit loup, là, boursouflé. Là. Comment tu le dis? Il avait un surplus de poids pour son âge.
Un obèse.
Je sais pas s'il était obèse, mais il avait clairement un surplus de poids pour son âge parce qu'il était fan de jus de fruits et il était fan de liqueur.
Ouais.
À un moment donné, il a commencé à jouer au foot puis il a arrêté tout ça du jour au lendemain. Pas juste à cause du foot, là. Parce qu'il jouait au foot, il n'y avait pas de changement. Et après, il a stoppé tout ce qui est liqueur et jus, là, slim. Pas en changeant le reste de son alimentation, en stoppant ça.
Fait que la perte de poids, l'eau gazéifiée accélérerait le processus de digestion aussi en abaissant le taux de sucre dans les globules rouges du sang.
Là, il va falloir que je choisisse mes dents ou le poids.
Le sang produit déjà son propre dioxyde de carbone pour absorber le glucose. Et si l'étude a conclu que la consommation du CO2 dans l'eau pétillante aiderait bel et bien à accélérer la digestion, la quantité serait quand même assez faible que l'eau pétillante, à elle seule, peuvent contribuer à la perte de poids. Mais si ça t'empêche
Mais
de
faut
boire
pas
de liqueur, exact. Ça t'empêche de boire de liqueur, c'est déjà ça de gagner.
Mais il faut vraiment pas virer fou parce que je me rappelle du dentiste qui m'a dit que c'était pas bon pour les dents. Parce que moi, j'étais fan de vodka Perrier, là.
Ouais.
Un skinny bitch, là.
Ça s'appelle un skinny bitch?
Le drink s'appelle un skinny bitch.
Fait que tu regardais le barman, tu disais, je prendrais un skinny bitch.
Ben, moi, je disais tout le temps vodka Perrier, tu le sais, là.
C'est vodka?
Moi, je disais vodka. Ah, franchement!
Vodka Perrier.
Vodka Perrier. Parce que tu t'hydrates en même temps que tu bois ton petit verre. C'est bon, avec un petit citron. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas bon pour les mains. Il paraîtrait en grande quantité. Y a un avocat très pédant que j'ai connu qui me faisait beaucoup rire, qui disait moi, un Perrier, c'est mon petit plaisir. Mais je dois faire attention parce que mon émail n'aime pas. Tout le temps. Il dit ça à qui veut l'entendre. Et le dentiste aussi confirme ça. Fait que là, je comprends que c'est peut-être le nouveau Ozempic dans ta tête, là, le Perrier, sauf qu'il faut faire attention.
Puis, selon l'étude, toujours, l'eau pétillante contribuerait d'ailleurs à provoquer une sensation de satiété. Fait que tu bois un peu d'eau pétillante, il y a des bulles là-dedans, fait que nécessairement, ça prend un peu plus de place dans ton estomac. Puis, tu manges peut-être un peu moins. C'est ce que l'étude mentionne. Je trouvais ça intéressant parce que dans les dernières années, il y a eu une diversification là, de l'eau pétillante. Là. Tu peux en acheter partout maintenant, plein de marques. Toi, tu me parles de Perrier, qui est une super de bonne marque.
Perrier, Montpellier, Bobli.
Ah, c'est Montpellier. Tu as raison.
La Canada.
Parce que je te parlais là, à 1,25 là, 2 piastres là, au métro. C'est ça, c'est Montpellier citron. C'est ce que je prends.
OK. Fait que ça, c'est une nouvelle étude qui est sortie.
Mais t'as-tu quelque chose, émail versus eau pétillante?
Ben, c'est parce que je faisais tellement confiance à mon dentiste, mais...
Moi, je faisais confiance à ma grand-mère, puis elle me faisait mettre une tuque pour pas que je poigne la grippe.
Les eaux gazeuses, dommageables pour l'émail. Une femme se sert un verre d'eau pétillante. Ben là, c'est une... ouais, c'est OK. Fait qu'il y a un reportage là-dessus, là. Parce que, justement, ça a gagné en popularité avec les saveurs multiples, là, qui étaient venues pas mal là, sur nos tablettes. On avait fait un reportage pour dire qu'il y a une chirurgienne dentiste là, qui disait que oui, c'est pas bon pour l'émail. Ça a aussi entre 3 et 4 au niveau moins élevé que celui des boissons gazeuses traditionnelles. Fait que c'est moins grave en tant pour que des boissons gazeuses, mais ça doit avoir un lien avec le sucre aussi. Là. Mais ça a un effet sur l'émail des dents. Sachez-le. Buvez-la à la paille, ça va aider.
Fait qu'on va boire de l'eau à Champleu?
J'ai hâte de... oui, de l'eau plate.
À Champleu.
Plate ou pétillante? Ah. T'as pas dit ça souvent, toi, dans ton ancienne carrière?
4-1-8-9-7... Non, je ferais pas. Moi, j'étais pas serveur qui faisait de la suggestion de produits là, dans le but d'augmenter les ventes. Là.
Mais non, mais c'est parce que... peut-être que c'était pas encore assez populaire aussi. Hey,
non, c'était hyper populaire. Ah, oui? T'sais, j'avais des gens qui travaillaient avec moi à l'époque là, qui étaient tout le temps en train de proposer ce qu'il y avait de plus cher sur le menu. Moi, si on me demandait mon opinion, là, je parlais des 3 plus grands vendeurs puis je donnais mon choix personnel à moi. Mais jamais que, tu sais, je disais, est-ce que vous voulez que j'apporte un bon verre de vin? S'il me le demandait pas, là. Ouais. Jamais que je proposais ça.
Il y a un gars que tu connais.
Avec... J'ai été traumatisé au couche-tard.
Pourquoi?
Parce qu'il y avait un inspecteur qui passait, puis on n'était pas vieux, là. On travaillait là, j'avais 16 ans. Puis il y avait un inspecteur qui passait, puis si tu lui offrais un gratteux,
okay.
Une barre de chocolat ou un chip, ça te donnait, je pense, 100$. Puis moi, j'avais jamais 100$.
Tu voulais pas faire ça.
Ben c'est pas que je voulais pas. Je trouvais ça tellement ridicule.
Mais je comprends en même temps. Je veux dire, si tu le veux, ton sac de fromage en grains sur le bord du comptoir, tu vas le prendre.
Ouais, c'est ça. Mais il fallait que tu offres de la loterie. Hein, est-ce qu'on prend un 6,49 avec ça? Ouais.
Mais là, tu rends accro le monde à la loterie en plus.
Ouais, c'est ça. Mais j'étais hyper mal à l'aise. Puis après ça, j'ai travaillé dans la restauration. Puis on dirait que ça a toujours resté, ce mal à l'aise-là.
Il y a un gars que tu connais.
Ce malaise-là.
Oui, pas le mal à l'aise. Pas grave, on le laissait couler.
On peut être mal à l'aise?
Ben oui, tu peux être mal à l'aise.
Enlevons ce mal à l'aise-là.
Mais tu vis un malaise.
Oui.
Mais il y a un gars que tu connais dans l'industrie avec qui j'ai soupé récemment puis qui m'a dit... Enfin, il m'a pas dit, j'ai tout vu aller. Il y avait le serveur, puis le serveur a dit, ben j'ai telle sorte de vin, et j'ai un grand cru, puis tout. Il a juste fait, je vais prendre un grand cru. Il s'en va, je suis comme, sais-tu ce que t'as pris? Est-ce que... Non, c'est juste, c'est lui qui avait l'air le meilleur. J'ai dit, je pense que je vais me faire avoir.
Ah oui, OK. Oh. Hey, vous avez des choses à nous dire? Nous autres, c'est le 418-971-101 pour nous rejoindre. Ça fonctionne par texto. On s'en va en musique. Après ça, c'est les news de Max. Puis après ça, on a le plaisir d'accueillir Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée qui va venir faire son tour en studio pour nous apprendre à nous découvrir en tant qu'individu.
Puis on te souhaite un bon Montpellier pendant la pause.
Oui. Non, là, j'ai mon petit chocolat chaud.
C'est pas bon pour tes dents, ça, non plus.
Je sais.
Mais t'es un homme malade.
Oui.
On peut pas avoir une conversation qui finit
normal.
On l'échappe.
Ça peut pas être une conversation qui se clôture bien. Faut tout le temps déraper.
Il y a juste la dernière fois, on était les trois filles.
C'est ça. Ah, c'est... Oh, on t'en a.
Je peux pas vous déranger,
okay.
Mesdames.
Ah, okay,
c'est moins 8 degrés.
On parlait de toi.
C'est moins 8 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 16. Quelques averses de neige pour aujourd'hui. Ça devrait cesser en mi-journée, nous dit-on. Maximum de moins 7 degrés. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé. Minimum de moins 22. Demain, mercredi, ensoleillé avec un maximum de moins 12. Jeudi, des averses de neige maximum de moins 8. Et vendredi, ce sera des averses de neige maximum de moins 2 degrés. Il se passe quoi? Que ce soit sur la route, 418-971-1021. Vous avez des choses à nous dire aussi. Ben, ça fonctionne par messagerie. Donc, merci de nous texter si vous le désirez. On a le plaisir d'accueillir Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée.
La tsar de l'open mic.
La tsar de l'open mic. Comment ça va, Paul?
Oh, c'est un gros titre à porter. Oui. Ça va très bien.
Tu as profité du fait que j'étais en vacances pour passer en studio avec les deux filles il y a deux semaines?
Écoute, comment se priver de ce privilège incroyable? On a parlé dans le dos beaucoup, beaucoup. Ça fait du bien.
Ça manquait-tu un peu de piquant?
Ben, on s'en est fait sur ton dos. Fait que tu vois, tu nous as pas vraiment quittés.
Bon,
là.
J'ai pas écouté, malheureusement. J'aurais
on
aimé
disait,
ça.
Tu disais, t'aurais dit ça ou t'aurais pas dit ça. On aurait été dérangé par ça, là, tu sais, franchement. Puis je me souviens même pas du thème. Le thème, c'était... Ah,
apprendre à se connaître.
Non, c'était le top 10 des meilleurs conseils en amour. C'était ça?
Oui.
Oui.
C'était pas se découvrir en 8 questions?
Ben, c'est aujourd'hui. Ça.
Pourquoi on referait deux fois le même sujet, le père?
OK, ouais, c'est ça. Je pensais que tu me demandais c'était quoi le sujet d'aujourd'hui.
Non, je te mettais au parfum que tu puisses savoir.
Vous avez parlé d'amour?
Oui.
Ah, vous avez bien fait de parler de ça pendant que je n'étais pas là.
Oui, ouais. Parce qu'il ne connaît pas ça, Aimé, lui.
Ouais.
Finalement, on aurait dû attendre.
C'est un concept abstrait. c'est un concept abstrait, l'amour. Comment ça va?
Bien.
Oui?
Ça va... Ça va vite. Là.
Ça roule tempête?
Mais tempête, là. Puis là, je suis en train d'ouvrir des nouveaux créneaux que je ne pensais pas ouvrir. J'ai jamais eu un automne comme ça. Puis l'hiver s'annonce comme... Tu sais, des fois, tu te dis, rendu à une certaine étape de vie, ça va peut-être ralentir, les gens vont se tanner de toi, bon, ouais. etc. Mais non, zéro. Là, tu sais, c'est comme wow, tout le service aux entreprises, là, c'est en train de faire une éclosion incroyable.
Non, c'est très cool. Je suis tellement fier de toi, là, de voir tout ce que tu fais, les conférences et tout ça. Puis moi, j'ai vu l'ampleur de tout ce que tu avais mis en place quand je me suis ramassé à Vallée-Jonction dans la garderie de mes deux gars. Puis j'ai entendu une éducatrice dire « Ben oui, c'est Paul Lévesque qui nous avait appris telle affaire là, lors de la conférence. » Puis les dames t'ont vanté devant moi sans savoir que moi et toi, on se connaissait. Pis c'est le fun, ça.
Ben, ça, fun, ça me fait plaisir. S'il m'avait bitché, est-ce que tu aurais pris ma défense?
Oh. Oui.
OK.
Oui.
Ça, c'est un step de plus
encore. Je suis ce genre d'ami.
Ben, je pense ça, pour vrai. Oui. Je crois en ta loyauté. Toi, t'aimes pour la vie... Ou...
Je déteste pour la vie.
Hé, hey, je suis dans la merde.
Ça regarde bien, moi, je dirais. Je pourrais miser là-dessus. Ça regarde bien. Je connais pas l'avenir, mais ça sent bon.
Non, mais quand j'aime pour la vie. À mes amis, t'es c'est loyal. Mes amis pour la vie, même si on se voit pas pendant des mois, des semaines, des années. Si jamais ces gens-là ont besoin de moi, je vais être là. Puis c'est la même affaire pour les femmes qui ont passé dans ma vie. J'ai toujours été comme ça aussi. Tu sais, mes premières blondes, j'ai pas toujours des contacts avec eux, bien entendu, parce que le temps fait son œuvre. Mais ma première blonde qui m'appelle, qui me dit « Yann, je suis dans le trou, m'en aller l'aider. »
Mais moi, je reconnais beaucoup la qualité des gens quand ils parlent de ceux qui ont passé dans leur vie.
Mm-hmm.
Je trouve ça intéressant de voir justement quel est le traitement qu'ils font, à moins que c'était une psychopathe finie. Là. Mm. Mais tu sais, en général, là, de 90%, même si ça a mal fini, même si quand les gens sont capables de relativiser, qu'ils sont capables de dire « cette personne-là a passé dans ma vie », puis même si ça a mal fini, elle a été un bout de ma vie.
Tu l'as pas choisi pour rien, là.
Tu l'as pas choisi pour rien.
Sérieusement, c'est bon ce que tu dis. On fait un aparté, là, parce qu'on parlait des relations. Mais moi, quelqu'un que je rencontre qui me parle en bien de ses ex, malgré les difficultés, puis qui explique pourquoi il était plus avec, je veux savoir, ça m'intéresse. Parle-moi-en, je suis pas dans la jalousie, pas en tout. Pourquoi cette personne-là? Comment est-ce que vous êtes aimé? Ça m'intéresse, mais il y a bien des gens pour qui c'est bizarre faire ça, puis... Ah! Moi, ça m'allume une lumière. Pourquoi c'est bizarre? Tu n'as pas été capable de voir le bon en cette personne-là, même quand ça n'allait pas bien à la fin. Puis il y en a qui ben, malheureusement, c'est impossible là, d'être là. Mais...
On a plein de gens autour de nous qui ont tombé juste sur des mauvaises personnes, selon leur dire. Mais j'ai des chums de gars qui ont eu juste des crises de folle dans leur vie.
Oui, bien là, il faudrait qu'ils se posent peut-être
des
questions.
Puis j'ai des chums de filles qui ont eu juste des narcissiques dans leur vie.
Oui, il faudrait qu'ils se posent des questions.
Ça se peut-tu que tu aies pogné du bon monde au travers de ça, puis que ce soit juste la relation amoureuse qui n'a pas fonctionné.
C'est peut-être toi le problème, finalement.
Mmh. Exact, exact. Mmh. Mais ça a toujours été moi le problème. Mais ils m'ont toujours quitté pour un plus riche, hein, jamais pour un plus beau. Ce qui fait en sorte
parce que
j'ai de l'espoir.
Ben, probablement que tu étais quand même une icône de la beauté. Ça peut être plus difficile de trouver.
Paul, faudrait quand même pas dire des affaires qui impliquent beaucoup trop d'enjeux là-dedans.
Si Léonard de Vinci avait été encore en vie en 2025, ça serait moi la Joconde.
Non.
Oh, écoute. Hein? Non, il t'aurait fait comme un buste, là, tu sais, devenu, là.
Découragé, c'est parce que moi, après ça, je l'ai d'en face pendant plusieurs heures. Ouais. Il va s'en vanter pendant 100 ans. Là.
Non, mais quand t'as Paul comme ami, elle fait du bien à ton égo.
Je vois ça. Ouais. Parce que quand t'as Pascal comme ennemi, c'est pas le cas.
Mais il faut me surveiller parce que des fois, je le prends au détour.
Ah, c'est
moi, je sème la confiance. Puis à un moment donné,
t'arrives avec la vérité.
Ouais. On est les mêmes techniques, moi et Paul, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai en collaboration que je suis en train de découvrir plein de trucs grâce à elle. On parle de se découvrir aujourd'hui en 8 questions.
Oui. trop souvent, d'où est venue l'idée, c'est que trop souvent, on se fait une opinion sur quelqu'un. Puis on est souvent surpris d'un commentaire, d'un...
Ouais.
Tu sais, je trouve qu'on juge beaucoup. On va partir de là.
C'est-tu dans les premières secondes? On se fait une opinion sur quelqu'un dans les premières secondes?
On dit que ça prend quelques minutes pour se faire une opinion, mais est-ce que l'opinion est bonne?
Et on peut-tu faire un exercice? Je sais pas si ça fit. 418-971-1021. C'est quoi votre perception de Yannick et moi?
Hey.
Que ça soit mauvais ou positif?
C'est un jeu dangereux, ça.
Ben, ça dépend
si t'es capable de... Pascal, pas pour toi.
Ben, je pense oui. Comme Yannick, tu sais, il dit, moi, je suis souvent vue comme une fille froide. En onde, là, parce que je parle de plus d'opinions de politique et autres, mais 88-971-1021. C'est quoi votre perception? Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on a le flou du média devant nous. Je trouve que ça fit avec ce que tu amènes comme sujet.
Oui, puis on est plein de préjugés. Puis souvent, moi, je cherche à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un comportement. Pour moi, sauf quelques exceptions de maladies mentales très importantes,
ouais.
Il y a toujours une réponse. Il y a toujours une explication derrière un comportement. Puis on pense connaître les gens. Puis on se fie à ça, puis on devient rigide. Et moi, ce que j'ai fait hier comme exercice, j'ai dit à mon conjoint, tu vas être mon testeur, OK? Donc, j'ai préparé des séries de questions de trois niveaux. Des niveaux simplets, des niveaux moyens, puis des niveaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Et curieusement, malgré toutes ces années-là, j'ai fait, mais c'est ça ta réponse? Encore là...
Tu le connaissais pas tant.
Bien, parce qu'on évolue, Yannick.
Mmh.
Ce que j'ai connu de lui, là, il y a 20 ans, ça l'a évolué. Il faut évoluer dans la vie. Puis même moi, je dis des choses là, tu sais, mettons mon opinion sur l'infidélité, mon opinion sur un paquet d'affaires. Je pense qu'on est plus carré quand on est jeune. Quand on vieillit, on devient peut-être plus...
Tu relativises les choses?
On relativise, on a vécu des choses, on comprend mieux, on juge moins.
Ah oui, hein? Des fois, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est le contraire. Ils se cristallisent dans une conviction de ce qu'ils sont puis ce qu'ils pensent.
Je pense qu'ils évoluent pas.
Ah, OK.
Non, je suis d'accord. Puis plus on vieillit, plus on se libère du regard des autres
oui.
ou de l'opinion des autres oui. à notre égard. Puis ça, ben ça, c'est le vrai sentiment de liberté une fois que tu t'es libéré de ça.
Moi,
parce que tu vis pour toi, tu vis pour tes proches, plutôt que de l'image que tu aimerais projeter dans les yeux de la personne puis qui pourrait te revenir. Tu sais.
Puis que l'image est faussée. Puis ça aussi, j'avais envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que avec les Photoshop et compagnie, ben des fois, je vois, je sais pas moi, quelqu'un va me demander en consultation privée, à me demander pour être ami pour se voir sur Messenger vidéo, par exemple. Mais je la reconnais même pas. Tu sais, quand l'écran rouge, j'ai quasiment envie de dire, va chercher.
Ça te parle déjà de l'individu.
Ben, ça sort, tu sais, l'image qu'on donne, est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce qu'on est compatible avec l'image qu'on donne? Mais surtout, prenons le temps de connaître les gens. Donc, j'ai préparé 8 questions qui pourraient être intéressantes, qu'on peut faire ensemble, que les gens peuvent noter. Puis commencez donc avec un cobaye intéressant. Parce que hier, moi, je te dirais que mon chum, il a fallu que je le réchauffe beaucoup, là, parce que ça n'a pas été le meilleur des cobayes. D'ailleurs,
il n'aime pas ça, faire ces exercices-là. C'est drôle, c'est ironique, il est avec toi.
C'est ça, les opposés s'attirent.
On se complète. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous voulez participer à la conversation avec
oui,
Paul Lévesque.
Puis nous répondre. Bon, alors, la première question, c'est pour comprendre votre perception. La perception que vous avez de vous-même. OK?
OK.
Bon, alors... Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Pas celui que t'aimes, là. Si tu étais un animal, là, tu serais lequel et pourquoi?
Est-ce que... en fait, je te poserai pas plus de questions. Tiens, un oiseau.
Pourquoi?
Parce que je peux voler. Je peux aller où je veux.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais, je peux faire mon nid partout. Puis je peux fourniquer.
Ah,
je savais. D'ailleurs, j'ai refait les questions.
Moi, j'aurais dit bonobo pour Yannick, honnêtement, mais bon. Vous irez regarder la signification.
Pascal, je m'en sortais pas. J'ai refait les questions sans arrêt en espérant qu'il y ait une réponse intelligente.
Mais ce serait un oiseau.
Mais lui, il a bien répondu. On est
au début. C'est ce qui rajoute qu'il gâche tout le temps.
Peut-être un aigle, comme oiseau, là.
Oui.
Ouais,
la liberté, la prestance, l'espèce de capacité.
C'est ça. Tu sais, tu peux voler des airs, personne ne te fait chier.
Ouais. Ouais.
T'es l'aigle. T'es là.
C'est bon, ça.
Ouais.
Oui. Oui, je trouve que c'est une bonne réponse. Rajoute plus rien.
Tu vois de loin, un peu comme moi, sa grande allée au printemps. Oh, excusez.
Non, oui, là, il l'échappe, Pascal. Dépêche-toi de répondre.
C'est dur à répondre, mais mettons, j'irai avec une loutre, je pense. Parce que
c'est très coquin.
Parce qu'elle est joviale, mais elle travaille fort, puis elle peut garder son mystère dans des petits coins de l'eau, mais elle peut aussi sortir quand ça est tente.
Elle est gluante, puis elle sent le poisson.
Je le savais. C'est ce qu'il rajoute qu'il gâche. C'est-tu de valeur?
J'allais le dire.
C'est-tu de valeur? Bon, OK, il faut l'aimer de même. C'est ça. Ben merci.
Une loutre. Ah, c'est bon.
Non, mais j'essaie, là. J'essaie. Faudrait
plus. Le pire, c'est que je savais, encore une fois, que c'était une chronique kamikaze. C'est à chaque fois, je me dis, je prends un risque.
C'est quoi le cri de la loutre?
C'est pas moi. Fais-tu ça, une loutre? Qu'est-ce que ça fait?
Fais pas tout ce qu'il te demande, Pascal.
Non, non,
t'as le droit de dire non.
Choisis mes combats. Celui-là, faut pas y être facile.
OK. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième?
Oui, allons-y. Oui.
La deuxième. Quelle qualité espères-tu avoir à 90 ans? Et ça fait partie de notre désir d'évolution. Donc, si je me perçois à 90 ans dans quelque chose que j'espère avoir, c'est que j'espère évoluer. OK? C'est un peu ça que la question nous amène. Alors, quelle qualité espères-tu avoir à 90
ans? C'est touchant,
ça. Avoir la capacité de m'émerveiller encore.
C'est tellement...
Oui, ça, c'est bon.
Le
ça,
premier geste, c'est bon. Oui, on y donne plus d'attention.
Très bon, on t'écoute plus.
On arrête. On
Moi,
arrête
j'allais
ça,
dans
là.
La...
Oui, c'est très bon.
La, continuer de cultiver la légèreté. Je trouve ça bon, je trouve ça apaisant dans la vie, je trouve ça permet des relations tellement plus belles, puis ça permet d'aller même dans des conversations très profondes, d'être léger dans ce que tu abordes.
Ouais, ça pas amène... te sentir emprisonné. Non. Des fois, c'est la peur qui nous emprisonne.
Oui, puis tu, oui. Peux, tu peux être toi-même, tu peux bon, avoir un sentiment de bienveillance. Envers... Je trouve que cultiver la légèreté là, fait beaucoup de bien. J'aimerais ça être encore une... J'ai l'impression d'être une vieille femme légère.
C'est bon, ça.
Mais c'est quand il faut quand même qu'elle change du tout au tout. Là.
Ah!
Non, c'est ça, il ne peut pas s'empêcher. Non. Non.
Bon, mais prépare-toi à répondre quelque chose à chaque fois.
Je pense qu'il y a un peu de jalousie, peut-être.
Ah oui, c'est
Tiens,
certainement.
Tiens, t'es jaloux,
peut-être.
Toi?
Oui.
La pause, ça serait quoi, toi?
Ah oh, ben, c'est
oiseau,
ça.
Pis, oiseau puis qualité.
L'animal.
Oiseau puis
qualité. Ben, l'animal, moi, je dirais un lion.
Un bon. Lion.
Ben, je vais te dire pourquoi. Tu sais, il y a l'image du chat, là.
Oui.
Qui a son ombrage, c'est un lion. As-tu déjà vu ça, l'image?
Oui.
Bon, ben, c'est ça, moi. C'est-à-dire que j'ai l'air de rien de même, là. Mais. Moi, je suis capable d'asseoir un adversaire. Je suis capable. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai. Je ne projette pas toujours tout ce que je suis dans ma capacité d'être. Mmh. Tu sais, les gens disent, oh, pour les gentils, être empathique, tout ça. Mais tu sais, moi, je suis une vraie rebelle au fond aussi, là. Tu sais, je suis capable de t'accoter dans le coin facile.
Avec ta belle crinière rouge.
Ah, ben, il y a ça aussi.
Ah, c'est bon.
Mais tu sais.
Un lion, OK. Ouais, puis quelle qualité?
Hey, moi, là, je suis prise, là. Moi, là, si j'arrive à 90 ans, je suis capable de lâcher prise.
C'est bon, ça.
Je lâche pas prise. Je m'inquiète pour un. Je veux que l'autre soit bien. Tu sais, juste lâcher prise en disant, je m'en calisse, là. Mm. Hey, ça, je serais arrivée à quelque part. Oui.
C'est
ça,
bon. Yannick, 100 % déjà. Continue.
Le lâcher prise.
Non, moi, c'est en calcé, lâcher prise.
Oui, c'est ça. Okay. Moi, je suis dedans, dépend naissance.
Mais tu vois comment il a bon cœur. Il est allé valider, puis il s'est dit, Paul n'a pas participé, il faut qu'elle participe. Oui. Tu vois, il est quand même...
Mais je pense qu'il veut apprendre de ça aussi, mais il ne dira pas.
Bien, il est toujours en apprentissage. C'est un être en apprentissage, constamment.
Ouais. Tu me diras quand tu seras tanné qu'on parle de toi en faisant comme si tu n'étais pas là. Uh-huh.
Mais c'est quand il parlera de lui à troisième personne que je vais t'inquiéter. C'est là. Bon, quelle peur souhaitez-vous dépasser. Donc ça, c'est toute notre vision du courage, tu comprends? Quelle peur souhaites-tu dépasser, Yannick?
Quelle peur je souhaite
dépasser?
La peur de perdre mes enfants.
Ah oui.
Ouais. Je pense que c'est la plus grande des peurs des pères, j'imagine.
Mais c'est celle qui t'habite depuis le début. Là,
que t'sais... ce soit par la santé ou que ce soit par la vie, les conflits, et tout ça, c'est une des peurs qui me hante. Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir ce type de peur-là.
Oui, puis tu sais, je dis souvent que quand on a des enfants, c'est comme si le cœur, une partie du cœur sortait de toi-même et marchait à tes côtés. Tu peux jamais marcher complètement libre, mais tu aimes cette liberté-là, mais parce que tu es toujours soucieux, puis tu as déjà entendu dire, les parents, je voudrais prendre son mal, je voudrais pas qu'il arrive ceci. Tu sais, fait que ça va dans ce circuit-là.
Quand tu es seul dans la vie, tu peux aimer beaucoup intensément. Mais quand tu as des enfants, c'est comme une autre forme d'amour, qui est une forme d'amour inconditionnel, qui est plus grand que tout. Là. Moi, j'avais pas idée de ce que c'était que ça. Puis à chaque fois que je les vois, je me dis, waouh, si jamais j'en perdais un, je perdrais une partie de moi-même.
Et ça ne finit jamais. Peu importe l'âge. Tu sais, ma mère a 83 ans, là. Puis elle est à l'écoute, d'ailleurs. Puis je me sens une petite fille avec elle quand elle s'inquiète de moi, quand elle me dit, Paul, il y a de la neige, là. Pourrais-tu ne pas y aller? Je dis, maman, ils sont 500 à m'attendre pour une conférence. Ouais, mais moi, je vais être inquiète. Moi, je serai pas bien. Fait que, tu sais, ça quitte jamais, là. Mm-hmm. C'est ta vie.
J'aime pas ça, cette question-là, mais je vais jouer.
Oh!
C'est sûr que j'ai déjà dit en ondes, là, mais la peur de parler, de perdre les gens autour de moi, c'est sûr, c'est la première. J'ai pas d'enfants et autres, mais je peux pas parler de ma famille sans.
Mais c'est légitime.
Mais j'aimerais ça qu'à un moment donné. J'ai montré un moment de faiblesse là, dans la dernière année, puis encore des gens qui sont inquiets de tout ça.
OK.
Parce que ça a été énormément de bienveillance. Moi, j'en ai toujours donné à 100 %. Puis c'était la première fois qu'ils me voyaient un peu faible, puis que j'avais pas le choix, ça paraissait. Fait que je pense que j'ai toujours la peur d'inquiéter mes proches. Puis ça, je pense que c'est un manque de peut-être d'ouverture. Des fois, faudrait que je sois moins apeurée des fois de laisser paraître à un peu plus ma fragilité.
Ben, tu sais, Nelson Mandela, que t'aimes comme moi, a dit dans la vie... Tu réussis ou tu apprends. Donc, cet événement-là t'a assurément amené à apprendre plein de choses. Mais des fois, on apprend des choses qu'on n'est pas capable de gérer encore. Des fois, ce qu'on a appris est trop grand pour la gestion. Fait que c'est le temps qui va finir par être capable de pouvoir récupérer cet événement-là auprès de toi et auprès des autres.
Je trouve ça cool que tu fasses le lien avec Nelson Mandela, parce que Nelson Mandela, tous les soirs, lisait le même poème. Ça s'appelle « Invictus ». Puis tu liras ça, tu vas avoir peut-être des belles réponses, là, les réponses que tu te poses. Là. Ce poème-là est un des poèmes les plus magnifiques que j'ai entendu de ma vie. Puis lui, il l'a lu à tous les jours, du matin jusqu'au soir, pendant 27 ans.
Le temps qu'il était en prison.
Ouais.
Ça dépend de notre apprentissage. C'est pour,
je pense,
la fragilité. Comment est-ce qu'on l'inculque là, dans ton éducation et autres? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est pas bien vu? Est-ce que c'est laisser une partie de toi entre les mains de gens qui pourraient mal s'en servir? Est-ce que il faut juste, je pense, relativiser les choses et revoir un peu le concept?
Oui, puis tu vas voir que l'apprentissage va venir, c'est-à-dire apprendre justement comment je fais pour gérer les situations où j'ai l'impression que ce que j'ai vécu peut être utilisé par les autres dans leur émotion, dans leur, tu sais. Fait que, puis des fois, à se parler, on se comprend. Hey, écoute, on est... Là, je suis tellement contente d'avoir choisi ça parce que... Ben oui!
Moi, c'est tellement pas le fun en ce moment.
Je croyais tellement à ce questionnaire-là, là, dans le sens que je l'ai tellement travaillé puis repositionné. Puis tu sais, ça va vraiment avec cette question-là, nous valide dans le courage. Puis le courage puis la peur, c'est très proche. Puis tu sais, ce que Pascal témoigne, c'est cette notion-là, quelque part entre la peur et le courage. Là.
Fait qu'on a trouvé des Kleenex. Elle ressemble à un chanteur de Kiss qui s'est fait arroser par les pompiers. Là.
Avez-vous vu comment j'ai réagi? Puis ça, c'est là où je l'ai pris vite puis je l'ai tassé. J'ai beaucoup de difficultés.
Mais tu l'as assumé, Pascal. Tu l'as très bien assumé. Tu aurais pu choisir de dire autre chose. Puis tu sais, tu l'as pas dit juste seul.
Mais je te respecte. Fait que j'ai goût de respecter ce que tu amènes en onde. Fait que j'ai répondu dans le respect.
Oui.
On continue. Toi?
Moi, une peur que je souhaite dépasser. Ah, écoute, c'est tout ce qui est médical.
Ah,
moi, j'ai énormément peur. Moi, je fais le syndrome de la blouse blanche. Moi, tu me fais une prise de sang, là, puis en attendant la réponse, je suis morte chez nous, puis je bouge plus. Je sais.
Puis y aller, puis ça faire prendre.
Puis écoute, je me suis fait opérer plusieurs fois, puis Yannick le sait, tu sais, j'ai failli mourir, j'ai vécu des affaires, c'est peut-être ça aussi. Non, mais je veux dire...
Je me toujours du jour où tu me l'as annoncé, on était à côté de la petite machine à café dans notre ancienne vie radio, puis sérieusement, ça m'avait jeté à terre. Puis de voir à quel point tu as eu une résilience, puis tu as relevé de ça, c'est une des grandes forces que tu as, Paul. C'est vraiment une des grandes forces que tu as.
Puis je devrais m'accrocher à ça pour me faire confiance, mais c'est pas encore. Tu sais, ils peuvent même pas prendre ma pression là-bas. À l'hôpital, je fais 200. Puis je veux dire, j'ai un gabarit de pas faire 200. Là. Mais.
Ouais, quand tu parlais d'être un lion, tantôt, je voulais juste ajouter petit lion.
Non, mais là, on rentre pas là.
Mini lion.
Non, tout le monde a entendu, hein, avec le vidéo qui a circulé, on voit plus là. Donc, pourquoi certaines personnes sont-elles cruelles et ou méchante. Là, c'est ta vision de l'humanité, c'est ton analyse de l'humanité. Donc, selon vous, pourquoi certaines personnes sont-elles cruelles et ou méchantes?
Manque d'amour.
C'est une bonne réponse. Ouais,
une excellente réponse.
Oui.
Centré sur eux-mêmes aussi, je pense.
Oui. Le narcissisme et compagnie. Oui. Moi, j'ajouterais la souffrance. Mis à part le fait qu'il y a des gens qui ont peut-être sont venus au monde avec des caractéristiques prédominantes pour aller vers. Mais quand tu fais... Moi, j'adore tout ce qui est tueur en série. Ben, c'est pas eux autres que j'aime, mais les documentaires.
C'est sûr qu'on va arrêter maintenant. Merci, Paul, pour ta collaboration.
Mais tout ce qui est comportement humain, mais dans l'extrême, là, ça, je vais l'écouter, puis ça me pose des questions. Et ils ont à peu près tous une dominante. Ils ont souffert. Ils ont beaucoup souffert. Puis là, ils vont me dire, oui, mais Paul...
Tout le monde souffre, effectivement.
Tout le monde souffre, puis ils ne virent pas nécessairement comme ça. Mais c'est une caractéristique dominante qui peut être accrochée, bien sûr, à d'autres troubles.
Tu sais, Fred ajoute quelque chose par texto. Je trouve ça intéressant, les discussions qu'on a avec les auditeurs. Continue de nous texter. Ouais. 418-971-1021, 418-971-1021.
Vous êtes en feu, c'est le fun, on vous lit en passant.
À la question que tu as posée, tu sais, ces gens-là qui sont méchants, qu'est-ce qui se passe avec eux? J'ai dit un manque d'amour. Puis Fred dit « Et ils ne s'aiment pas eux-mêmes. »
Oh, absolument. Absolument. Quand tu as une estime qui est faible, d'ailleurs, parlons juste de l'intimidation, on parle des gens cruels et méchants, là, mais là, je vais le mettre au niveau parce qu'ils peuvent l'être. Là. Ça peut détruire une vie.
Ça, des gens écrivent la jalousie,
oui.
Le manque d'estime personnelle.
Oui,
ça sort,
oui, tout
là.
Ça. Ouais. Tout ça. Puis, imagine que tu as tout ça en même temps. Non, mais ça se peut que non, mais ça se peut que ça te fasse entrer dans le corridor. Puis, quand tu es un intimidateur, dans la plupart des cas, ton estime est aussi faible que l'intimidé.
Parce que c'est un mécanisme de protection?
Bien, en fait, quand tu écrases tout le monde autour et que tu sens que tu as du pouvoir, tu ne peux pas l'avoir par toi-même de façon intrinsèque. Donc, ça veut dire que tu dois le créer artificiellement. Écrase tout le monde autour, tu vas te sentir quelqu'un. Donc, c'est un peu ce principe-là.
Puis, ils s'en prennent souvent pas à ceux qui ont l'air forts. Fait que je comprends qu'ils disent, je m'en prends à qui je suis capable, envers qui je suis capable d'être écrasant.
Qui ont souvent une faible estime. Oui. Hey, vous êtes bon. Comment gères-tu tes doutes? Donc là, on parle vraiment de la résolution de problèmes, la gestion émotive. Comment gères-tu tes doutes?
J'en ai pas.
T'as jamais de doute, toi? Non. Tu doutes de rien. C'est incroyable.
Parce que je prends le temps. Tu sais, mettons, j'ai quelque chose dans ma vie, un épisode dans ma vie,
oui.
Une chicane où je prends le temps de bien analyser mes affaires. Puis après ça, je vais avec des stratégies.
Mais t'en avais initialement.
T'en avais, mais t'as pris le temps de valider pour que ces doutes-là se confirment dans une direction ou dans l'autre.
La question, c'est quoi? Comment?
Exactement, c'est comment gères-tu tes doutes?
Ouais, j'en ai pas vraiment. C'est juste que je laid back.
Ben, tu dois en avoir au départ, mais tu les gères bien, donc il ne reste pas des doutes. Ils deviennent résolutions, ils deviennent... Mais au départ, si tu te questionnes, c'est que tu as des doutes.
Ouais, ben oui, vu comme ça, effectivement, ça peut être ça. C'est juste que je suis laid back, tu sais. Si quelqu'un va me dire quelque chose de vraiment désagréable, là, à moins qu'il me le dise comme 20 fois, puis là, il y a de l'accumulation, puis je vais exploser. S'il me le dit juste une fois, je vais comme être laid back, réfléchir à ça, puis revenir avec autre chose, tu sais. Sans nécessairement m'être questionné énormément, là.
Mais quand tu prends une décision...
C'est fait. Hein? Ça peut être long, là.
Ben, c'est là.
Ça va être le quotient intellectuel.
Mais quand
ça a très,
été...
très long, dans mon cas.
Quand ça a été long, c'est peut-être parce que le doute était là.
Ouais.
Puis tu as travaillé là-dessus pour qu'une fois que tu as... Moi, je pense qu'une fois que tu as pris une décision, tu n'as plus de doute.
Parce que j'attends mes réponses.
Mais dans ce temps-là, tu es en doute.
Ouais.
Tu attends d'être sûr avant de prendre une décision.
Exact.
Alors, quand tu as pris une décision, il n'y a plus de doute.
Voilà.
On pourrait dire ça.
Moi, j'adore ça.
Oui?
Moi, j'adore ça. Je les prends de front, je les décortique. D'où ça vient? Parfait, on passe à l'action. Je suis vraiment dans l'action à ce moment-là. Puis le doute m'a presque jamais arrêté.
Si vous voulez la stimuler, faites-la douter.
Oui.
ça devient un défi. Mais chez toi, Pascal, le doute devient un défi de dire
brasser
les choses.
Ça m'amène juste bon. Ah, vraiment. Tout le temps.
Okay.
Puis ça m'a amené beaucoup à comprendre l'émotionnel, le pourquoi. T'sais, s'il y a une affaire que je maîtrise, c'est ça. Ah non, pas cette émotion-là. Pourquoi je la vis? Parfait, on la gère. J'ai cette force-là. Le doute m'alimente.
Donc, le doute t'amène à te questionner et t'aimes te questionner parce que c'est par ces questions-là que tu trouves des réponses.
Absolument. Puis que je fonce. J'ai pas grand-chose qui m'arrête.
Wow! C'est wow quand même, hein? Ben moi, si j'avais à répondre, comment gères-tu tes doutes? Je dirais que j'ai assurément des doutes, mais dans mon travail... Il faut que je sois plus forte que ceux que je rencontre.
Mm.
Fait que j'ai développé avoir une certitude rapide.
Mais c'est une grosse charge, ça, par
oui.
exemple.
Oui. Mais j'ai développé. Tu comprends?
Une certitude rapide?
Oui. Parce que les gens qui sont devant moi sont en doute. Ils cherchent des questions. Tu comprends? Fait que moi, il faut que rapidement, je vois ce qu'ils ne voient pas eux-mêmes.
Ouais, je commence à comprendre ce que tu me dis. C'est que je me remets souvent en doute, mais quand il y a quelque chose, une situation qui arrive dans ma vie, puis je l'aperçois d'une façon différente que visiblement l'autre personne en face de moi, c'est là où j'établis comme mon camp à moi, puis j'essaie de résoudre mes trucs, puis après ça, je reviens. Mais là, je comprends un peu plus ta...
Tu comprends?
Ouais,
oui.
Question.
Puis peut-être à travers ma réponse aussi, ça peut t'éclairer, mais tu sais, moi, je me donne... J'ai un réflexe rapide de résolution. Donc, le doute reste pas longtemps.
Ouais. Puis c'est sain de douter en passant.
Ah, mais je dirais que les doutes vont peut-être venir plus dans une sphère où je n'ai pas de compétences.
Pas de compétences, c'est quand ça affecte l'autre aussi, je pense.
Oui.
Pour ne pas faire mal ou...
Ou quand j'ai pas de réponse, parce que moi, je suis habituée d'avoir des réponses. Ben, tu sais, ça fait 40 ans que je fais ça, là, tu sais, je veux dire... Fait que quand j'arrive dans une sphère où je comprends pas, là, je sais pas, moi... je m'en vais avec le garagiste, là, je vais te dire ça, là. Tu comprends?
Avec le garagiste?
Oui.
Ben, ils ont des bons emplois, c'est bien rémunéré. Tu pourrais bien faire ta vie.
Ils sont manuels, là. C'est le fun, ça aussi. Là.
Ben, ça peut avoir des avantages, mais ils ont les mains pleines de graisse, ça, j'aime moins ça.
Ça va en l'orange.
Puis maintenant, ils sont rendus avec des gants. Oh,
mais je veux dire, je vais dans une sphère. Oh là là.
Au contraire, bravo. Ah, ils développent des problèmes de peau pis tout, là. C'est pas une histoire de principe.
Mais les vieux garagistes, là, c'était des mains noires à 375
par année. Mains crevassées.
C'est le savon à l'orange avec les petites les petits grains, là. Tous ceux qui ont côtoyé des garagistes, là, ils ont l'odeur en main.
Il arrive quoi, Paul? C'est une question qui t'est posée. Il arrive quoi quand le doute s'installe en permanence, autant dans ton travail que dans ta vie amoureuse? Ah, bien, c'est une belle, c'est une bonne question, soit dit en passant.
Bien, quand le doute s'installe, c'est l'anxiété qui va prendre le dessus. Ouais,
mais c'est un beau moment pour faire un bilan.
Oui. Tu n'es peut-être pas à bonne place si tu doutes autant dans toutes tes sphères.
Si tu doutes autant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te dérange, assurément, ou plusieurs éléments qui te dérangent. Des fois, c'est parce que tu es sur le bord de prendre une décision, mais tu ne veux pas la prendre. Comprends? Fait que là...
C'est pas mieux de stagner.
Mais il y en a qui vont rester dans une zone de confort. Quand je suis perpétuellement en doute, c'est que je reste dans une salle d'attente.
Oui, j'aime mieux ça.
C'est
parce
ça
que moi, la zone de confort, j'aime pas ça qu'on la nomme comme ça parce qu'elle est pas confortable bien souvent.
Non, mais plus confortable que de penser que je vais quitter.
Ouais, c'est un 3 secondes de courage.
Oui.
C'est comme quand t'es quelqu'un de gêné, là, puis là, faut, pour le travail ou autre, faut aller aborder quelqu'un, tu comptes 3 secondes, c'était 3 secondes de courage. Puis une fois que t'as dit bonjour, t'as pas le choix, la psy est crevée, ça continue.
Bien, moi, j'aurais envie de conseiller à cette personne-là, fais la liste de ce que t'as peur. Tu sais, est en doute, là? Bien, par rapport à ton travail, par rapport à ta vie, de quoi t'as peur? J'ai peur de me retrouver toute seule, j'ai peur de quoi t'as peur? C'est souvent ça qui nous amène à rester dans le doute. Dans la plupart du temps, c'est l'anxiété qui fait qu'on reste dans le doute. C'est souvent ça qui prend le dessus. Ou trop perméable à ce que les autres disent.
Ouais.
Ça revient à ce qu'on disait tantôt, vivre dans le regard des gens.
Ça se peut que moi-même, ma propre insécurité fait que je dois constamment aller valider auprès des autres.
Ouf.
Et quand je me mets à aller valider auprès des autres, ils peuvent avoir plusieurs réponses. Alors, au lieu de me confirmer, ça augmente des doutes.
C'est sorti par texto. Quelqu'un qui dit, moi, quand j'ai des doutes, je suis encore plus mêlée quand je commence à demander des conseils aux gens.
Oui, ça se peut, oui. À moins d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Là. Mais tu sais, des fois, quand tu fais une fouille, tu es encore plus mêlée. Absolument. Ça répond, Yannick?
Oui.
La sixième, est-ce que tu... Bon, là, c'est tout notre côté, pas spirituel, mais l'espoir. Est-ce que vous croyez au miracle? Puis là, vous allez me définir miracle. Okay?
Mais non, mais c'est ça j'allais te demander à toi.
Bien, en fait, la question est posée pour que tu puisses la définir toi-même.
C'est quoi un miracle?
Je crois au miracle parce que c'est ceci, ou je crois pas au miracle parce que pour moi, la définition du miracle, c'est cela.
Bien, moi, ça a une connotation religieuse, le miracle. Fait que le miracle n'existe pas.
OK.
Parfois, il y a des situations qu'on vit, exemple, en médecine, là, des situations où la personne est décomptée. On dit, toi, il te reste quelques jours, puis ça va être terminé. Fais le tour de ta famille, puis dis-leur un dernier au revoir. Puis ces gens-là réussissent à s'en sortir quand même.
Oui.
C'est arrivé à un courtier chez Via Capital qui était dans le temps qui travaillait avec Simon Laberge. Puis lui, deux fois, il était en soins palliatifs. Là. Deux fois, il est obligé de dire salut à ses amis, dire au revoir à ses amis. C'est un tough, là. C'est un retraité de l'armée canadienne. Là. René, aujourd'hui, il est décédé.
Finalement.
Mais il me racontait ça là, deux fois. Deux fois, il était décompté, puis il repartait de l'hôpital. Moi, je pense que c'est
petits miracles.
Parce que je ne crois pas en aucune religion.
OK.
Fait que à mes yeux, à moi, les miracles n'existent pas. Mais je pense juste qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on est incapable de contrôler, puis que l'humain, parfois, peut se tromper dans ses diagnostics. Puis ça fait en sorte que René, avec toutes ses belles qualités, a réussi à se relever des soins palliatifs par deux fois.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais. Retourne chez vous, tu meurs pas.
Donc, on n'attribue pas ça à un miracle selon ta description des choses. On attribue ça à la force personnelle d'une personne, à des variables qu'on ne connaît pas.
Exact. En médecine, on en découvre de nouvelles choses à chaque fois. Parce que les miracles, pour moi, ça a une connotation religieuse.
Okay.
Je le dis en passant, si vous êtes religieux, j'ai aucun problème avec ça. Là. Mais
dans ta tête à toi, ça a une connotation spirituelle.
C'est ça.
Bah, okay. Quelqu'un qui dit que c'est pas un miracle, c'est juste un mauvais médecin.
Ouais. C'est capoté, là. Moi, ils me racontaient ça au party de Noël.
Bravo pour la répartie.
On est allé, j'étais allé les voir à leur party de Noël au Cécile et Ramon. Puis ça fait ça, un gars qui dit, j'ai été deux fois en soins palliatifs. Ils m'ont retourné à la maison.
Il a vécu combien de temps en tout?
Plusieurs années.
Ah, OK. Pas juste quelques mois, là.
Plusieurs années. Puis même, tu sais, ça... En même temps, on en rit, là. Aujourd'hui, René, il nous a quittés, mais... T'sais, même que quand on nous a annoncé que René allait partir, on y croyait pas. On a dit qu'il va ressortir dans une semaine.
Mais pas ce fois-là.
Mais pas ce fois-là.
Quand même.
Pascal?
Il n'y a rien de divin. Pour moi, le miracle, tu sais, tout ce qui est justement, c'est comme Yannick, au niveau de la religion, je crois pas. Mais ça, tu disais, ça va peut-être tomber dans le quétaine, mais je pense que les miracles, tu les crées. Je pense que tu es le façonneur ou la personne qui façonne ces miracles-là. Si tu veux changer des aspects dans ta vie ou autre, puis que toi, ça donne que tu trouves que c'est un miracle, que ça ait fonctionné, je pense qu'on a toujours travaillé un peu pour. Puis c'est notre entourage, c'est les dispositions intellectuelles, c'est nos connaissances, c'est le guts qu'on a eu. Je pense que c'est ça qui amène. Moi, je crois à l'aura, là, ce qu'on dégage, ce qu'on souhaite attirer autour de nous. Ça, j'y crois. Qu'est-ce qui émane de toi et qui attire quelque chose que tu souhaites, là? Ben, ça, j'y crois beaucoup.
Je crois une autre définition, au fond. C'est une autre définition.
Oui, peut-être, oui.
Dans mon cas, à moi, moi, je ne mets aucune connotation religieuse à miracle. Pour moi, il n'y a pas de connotation. Dans ma définition, à moi, il n'y a pas du tout. Je crois qu'on fait tous des petits miracles à notre façon. Puis je te donnerai l'exemple. Quand tu as reçu le petit bonhomme qui est décédé, là, pour moi, ça, c'est un petit miracle.
Big Boss Bouchard.
Oui. Mm. Ouais. Pour moi, c'est par votre accueil, vous avez créé un petit miracle, c'est-à-dire vous avez réussi à réaliser un de ses rêves. Pour moi, quand on contribue à rendre quelqu'un dans un moment de grâce, pour moi, c'est un miracle. Un petit miracle de la vie que j'appelle. Là. Tu sais, quand tu dis « Ah, oh, mais ça ne marchera jamais » puis que tout d'un coup, ça se met à marcher, pour moi, ça, c'est un moment de grâce. Puis, tu sais, j'ai eu beaucoup dans ma vie jusqu'à maintenant à côtoyer des gens qu'on pensait finis, pas par la mort, mais par une vie épouvantable, des gens se relever de l'inceste, des gens se relever. Tu sais, moi, j'en ai entendu des histoires. Pour moi, ça, c'est des petits miracles humains, pas divins.
Non, Big Boss Bouchard, et je l'ai rencontré deux fois. Il est venu deux fois à la station, Pascal. On a fait des courses. Ben, ça me prenait quelqu'un pour faire une course, puis je voulais être sûr de gagner. Fait que je l'ai pris lui. Puis la deuxième fois, il voulait entendre sa tune d'AC/DC. C'était son rêve avant de partir. Oui. Mais je pense qu'il nous a plus fait du bien à nous autres que nous autres, on lui a fait du bien à lui. Quoique, je suis persuadé qu'il était content d'entendre sa tune. Tu sais, moi, là j'ai mal à une épaule. Là. C'est rien comparativement de la vie que ce petit gars-là a vécu. Là.
Et, tu vois, j'ai écouté quand vous étiez en studio, là, j'ai pris le temps de l'écouter. Et pour moi, ça, c'était un petit miracle.
Ouais.
Pas juste à cause de ce qui se passait là, mais à cause de tous les gens qui étaient là, habités par quelque chose de merveilleux.
Sur le Twitch, t'es rassembleur, les gens en ont eu une leçon.
Puis regarde tout le visage des gens. Pour moi, c'était ça, tu sais. Quand une mort imminente réussit à rassembler tous ces gens-là avec le sourire et tu voyais la tristesse, mais tu voyais cette espèce d'énergie. Pour moi, ça, c'est ça. Il en reste deux. Qu'est-ce qui provoque chez toi un sentiment de solitude? Donc là, ça parle tout du relationnel. Qu'est-ce qui provoque chez toi un sentiment de solitude?
Hey, je vais être plate, là, mais j'ai jamais l'impression d'être seul, même quand je suis seul.
Tu es bien là-dedans, là, en majorité.
Ouais, c'est ça.
J'ai jamais eu l'impression d'avoir un sentiment de solitude, là, à me dire qu'est-ce qui se passe. Là? Avant, j'étais bien entouré, maintenant, je ne le suis plus. J'ai pas ça.
C'est pas la présence physique qui est là ou qui n'est pas là qui va créer la solitude chez toi.
Ouais.
C'est pas la présence de l'autre là, ou l'absence de l'autre, pas nécessairement.
Mettons de façon frivole et stupide, là, le souper du dimanche soir. Moi, j'aime ça, une table avec des amis ou la famille ou ça, le dimanche soir.
Comme la petite vie.
Tu commences ta semaine, il y a de quoi de réconfortant ta fin de semaine. Ça, c'est frivole. Mais sinon, je pense que je vivrais de la solitude si je n'avais pas d'amitié profonde ou de relation profonde.
Oui.
Tu sais, de surface, là, si mes amis ou ma famille, c'était juste pour faire le party, pour prendre des verres ou aller en voyage ou triper pour une activité, s'il n'y a pas de moment où je pourrais être avec quelqu'un puis je sais que je l'appelle puis on peut être les deux sur le divan, vraiment à pas se parler, à regarder une émission où je pense que si je ne savais pas que j'avais ça, ou un genre de quelqu'un que tu peux appeler à n'importe quelle heure puis c'est sûr
c'est bon, ça.
Que la personne va venir, là, je pense que je vivrais de la solitude comme ça. Mais ma plus grande richesse, c'est mon entourage.
Paul, il reste à peu près une minute. Une minute.
C'est notre dernière question. Moi, je pourrais répondre très, très rapidement en disant « Je me sens seule quand personne m'apporte du soutien. Moi, je soutiens tout le monde. Puis quand moi, j'ai de la peine, puis je me retrouve avec personne qui me soutient, je me sens seule. » Es-tu à la bonne place dans ta vie? On va vérifier ta cote de bonheur avec la dernière question. Es-tu à la bonne place dans ta vie?
Oui.
Partout?
Partout.
Un homme heureux, alors?
Oui.
Es-tu une personne honnête?
Oui.
Pascal?
Non.
T'es pas à la bonne place?
Pas hein? Partout.
Es-tu une okay. personne honnête?
Oui.
Oui, je pense que oui.
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 Yeah. Même pas besoin.
Ouais, ouais. Non, non.
Oui.
Donc, ça veut dire que...
Je travaille à certains arrangements.
Il y a des choses qu'on a encore besoin de...
Oui, parce que je l'ai déjà été, fait que je sais que je suis capable, puis je reconnais quand je le suis pas.
C'est pas fait pour toujours. C'est qu'on doit y travailler, parce que comme on est en évolution, les gens évoluent autour.
Mais le chemin est le fun.
Ben, écoute, le chemin du bonheur, il est toujours en construction.
Mais c'est ça le bonheur pour moi.
Ben, c'est parce
c'est le chemin, c'est pas l'arrivée.
Ça nous amène des défis, puis ça nous amène des récompenses.
Paul?
Moi, je suis à la bonne place dans ma vie et je suis quelqu'un de très proactif. Ça veut dire que je le vois venir quand je suis pas bien puis je fais des changements.
Ah, j'aime ça, j'aime ça.
Bravo, Paul
Lévesque, spécialiste du comportement humain, ça a été un bon rendez-vous. On s'est posé une multitude de questions. Merci beaucoup aux auditeurs.
Avec les gens, les gens ont participé,
oui, vraiment.
Participation, c'est le fun. Chaque fois que tu viens, ça nous fait se questionner en tant qu'individu à savoir où est-ce qu'on en est rendu dans nos affaires. Puis on apprend plein de choses. Fait que gros merci. Pour les gens qui veulent te rejoindre, qui veulent avoir accès à tes conférences, qui veulent te rencontrer.
Paul Lévesque, @commercialyahoo.ca, paullevesque.net, Paul Lévesque, les cheveux rouges sur Facebook. je suis presque partout. Vous pouvez appeler mes amis ici. Tu sais, je veux dire, je suis facilement rejoignable.
Exact.
Paul Lévesque, pas d'accent.
On se reparle dans deux semaines. Merci beaucoup,
bye
Paul.
Merci, Paul.
L'Australian Pink Floyd Show va être en concert le dimanche 28 septembre prochain. Ça se passe à l'Agora du Port de Québec. Ça va être une super de belle soirée avec la tournée « Wish You Were Here ». Le 50e anniversaire, bien entendu. Une prestation de l'album Wish You Were Here dans son intégralité, puis des hits des albums Dark Side of the Moon aussi, Animals, The Wall, Metal, Relics et plus encore. Les billets sont en vente dès le 7 février, donc dans quelques jours sur evenco.ca. Evenco.ca. J'ai une paire de billets à l'instant. 418-971-1021. 418-971-1021. Ça me prend un mot de passe.
Oui. Learning to Fly, c'est sur quel album? Pour moi, c'est la meilleure de tout ce que Pink Floyd a fait. Quel album? Learning to Fly.
T'as-tu la réponse, Paul?
Les vrais vont le savoir.
Écoute, j'hésite, je sais pas. Écoute, moi, j'y allais pas par... Non, je vais être honnête, là. Moi, j'écoutais les Bee Gees.
On est
OK, c'est réglé.
Merci, Paul.
Non,
merci.
Non, mais je connais Pink Floyd, là, mais...
11h18, ouais. On revient.